La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Moins 300, plus 100. Nous voyagerons dans le temps cette semaine à la suite dans les idées et nous le ferons à la vitesse des lumières. D'abord en remontant à cette source lumineuse, mais surtout en nous intéressant à ces éclats divers et leur réfléchissement à travers l'espace et le temps. Les lumières comme une boule à facettes en quelque sorte avec l'historien Antoine Wilty. Puis c'est dans le futur que nous nous projetterons pour évoquer un conte contemporain mais qui se situe dans un siècle et sur un autre continent avec l'écrivaine Leonora Miano en seconde partie. Antoine Wilty, bonjour.
Bonjour Sylvain Bourmeau.
Vous êtes l'auteur d'un nouveau livre, L'héritage des Lumières, qui paraît dans la collection Hautes études Gallimard Seuil. Un livre qui revient donc sur les Lumières. Alors, qu'est-ce que les Lumières ? On se posera la question, si vous voulez bien, un peu plus tard. J'aimerais qu'on commence par une autre question, une autre remarque, qui est peut-être d'ailleurs à l'origine de votre travail, qui est celle de l'actualité des Lumières. Vous commencez par, au fond, une surprise, alors même que les Lumières s'étaient peut-être affaiblies dans leur visibilité dans l'espace public du fait tout simplement de leur triomphe. On a vu ressurgir les Lumières, en tous les cas, des gens qui se réclamaient explicitement à nouveau des Lumières ou de certains auteurs en particulier des Lumières.
Oui, c'est une surprise en fait, c'est-à-dire qu'on est, on travaille sur les Lumières de manière professionnelle, c'est un enjeu universitaire. Et puis depuis, je dirais une dizaine d'années, j'ai été frappé par, on a tous été frappé par l'actualité des Lumières, comme vous dites, le fait que dans l'espace public, les débats autour de la validité ou non de l'héritage des Lumières est devenu extrêmement présent. Alors, l'exemple que je prends au début du livre, on l'a tous en tête, c'est au moment après les attentats contre Charlie Hebdo, contre la rédaction de Charlie Hebdo, on avait vu le ressurgissement de la figure de Voltaire, évidemment, comme là, grand défenseur de la liberté d'expression. Voltaire était Charlie, les journalistes, les hommes politiques se réclamaient de Voltaire, ce qui était à la fois quelque chose d'important et peut-être avec un certain nombre de malentendus, parce que Voltaire n'était pas l'apôtre d'une liberté de la presse absolument illimitée, les Lumières plus généralement ne l'étaient pas. Donc c'était ça qui m'intéressait d'approfondir.
Alors qu'est-ce que les Lumières ? La question est fort ancienne et elle est contemporaine en fait des Lumières, elle est posée au moment même. Il y a cette réflexivité en fait dans ce moment des Lumières qui non seulement est là présent dès l'origine mais qui n'a eu de cesse de perdurer, ce qui rend la tâche de l'historien, j'imagine, particulièrement compliquée pour traiter un objet comme celui-là qui est mouvant par définition.
Elle est compliquée et en même temps c'est là qu'elle devient intéressante parce que le rôle de l'historien c'est justement d'essayer de compliquer un peu le passé pour le rendre plus riche, plus intéressant. Et au fond, il y a deux propositions dans le livre par rapport à la définition des Lumières. La première c'est que c'est le titre, hein, l'héritage des Lumières. Au fond c'est un pléonasme ce titre, c'est-à-dire l'idée que les Lumières sont nécessairement un héritage. Elles ont toujours été pensées et construites comme un héritage. Parler des Lumières, c'est parler de ce que nous leur devons ou ce que nous ne leur devons pas, mais c'est forcément parler de la relation qu'on entretient avec ces auteurs et cette période. Donc c'est la première proposition. Donc ça implique immédiatement un geste réflexif et un retour sur une série de définitions préalables. Et puis le deuxième geste, c'est de dire... Deuxième proposition, c'est de dire, au fond, les Lumières, il ne faut surtout pas les penser comme un corpus cohérent, comme une doctrine unifiée, un programme théorique dont il faudrait se réclamer ou qu'au contraire, il faudrait rejeter. Ce qui est intéressant, vous aviez cette comparaison au début de en lançant l'émission de boule à facettes.
Alors, un peu osé.
Un peu osé, je ne sais pas. J'aimerais bien que mon livre puisse se lire comme on va en boîte de nuit. Mais malheureusement, je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Mais en réalité, effectivement, vous avez tout à fait raison. Ce qui m'intéresse, c'est la pluralité des Lumières. Pour moi, les Lumières, c'est une scène de débat, une scène de désaccord. Et ce n'est pas le programme théorique d'où est sortie la modernité, c'est déjà le moment de réflexion sur les contradictions de la modernité. C'est le moment où toute une série d'auteurs, d'intellectuels, mais aussi d'ailleurs d'écrivains, ont essayé de problématiser la modernité. Et donc la bonne manière d'hériter des Lumières, c'est non pas d'en hériter comme d'une doxa ou comme d'une doctrine, mais au contraire d'être à la hauteur de cette capacité à faire de la modernité un problème.
Alors on voit bien d'ailleurs la tension entre certains usages politiques des Lumières, notamment par la République, certains très anciens, d'autres plus récents, qui simplifient, qui caricaturent, qui créent des héros, qui choisissent d'oublier certaines pages, et puis tension entre cette dimension-là, et puis le travail des historiens qui, au fur et à mesure que le temps passe, devient de plus en plus approfondi et permet de démultiplier au fond ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire cette pluralité permet de découvrir qu'il y a des lumières dans beaucoup de pays, par exemple, pour ne prendre que cette dimension-là, et que à chaque fois une couleur différente ou une tonalité différente se fait jour, par exemple.
Oui, tout à fait. Les historiens sont, les universitaires sont souvent confrontés à cette difficulté, mais on a un écart qui est énorme entre ce qu'on appelle lumière dans le discours habituel, et d'ailleurs ce que l'école souvent aussi transmet, ce qu'on apprend, c'est-à-dire les lumières c'est le progrès, les lumières c'est la raison, les lumières c'est d'abord sont des grands intellectuels, des grands écrivains français
qui sont au Panthéon,
voilà. Et puis c'est la laïcité, c'est la République, souvent c'est la Révolution. Bon. Mais il y a des Lumières dans plein de pays où il n'y a pas eu la Révolution, des Lumières qui étaient compatibles avec la religion, par exemple, ou en tout cas qui entretenaient des liens beaucoup plus compliqués. Et puis dès qu'on s'interroge sur certains auteurs, que ce soit des auteurs français comme Rousseau, que ce soit des auteurs allemands comme Herder, on s'aperçoit que en réalité le rapport à la raison, le rapport à l'universel, le rapport au progrès sont infiniment plus compliqués que ce qu'on nous a appris. Alors, le danger, c'est qu'il y ait deux types de discours qui ne se croisent jamais. Le discours dans l'espace public, alors il faut être pour ou contre les Lumières, et puis le discours des historiens, ou d'ailleurs des historiens de la littérature ou de la philosophie, qui compliquent infiniment à force de monographies, d'articles. Et c'est très bien, c'est leur rôle, et c'est ce que je fais la plupart du temps. Mais je pense que c'est important d'essayer, au fond, c'est un peu comme ça que je pense le livre, de traduire ce travail collectif, hein, c'est un livre, ce qui le rend peut-être pas toujours si facile à lire, je voudrais. Il y a beaucoup de débats historiographiques, mais parce que j'essaye de traduire ce travail collectif, justement, dans des termes qui puissent intervenir dans le débat sur l'actualité des Lumières.
Bon, c'est un livre qui se lit parfaitement. Ça fait deux fois que vous le lisez.
Non, je voulais pas effrayer les auditeurs.
Non, il y a vraiment pas de quoi être effrayé. Mais je voulais revenir parce que il y a des enjeux là de connaissances qui sont importants, qui sont aussi des enjeux politiques. Je voulais revenir sur peut-être l'un des problèmes principaux qu'on rencontre avec les Lumières, qui est lié à ce qu'on apprend à l'école. En général, on apprend que par exemple, les Lumières ont rendu possible la Révolution française. Mmh. Que les Lumières, c'est le fait que des livres aient été publiés par des philosophes qui a permis la Révolution française. Et puis, au-delà de ça, un certain nombre de révolutions, de transformations profondes de la société. Vous avez une approche qui est un peu plus balancée sur ces choses. Non pas que ces livres ou ces œuvres n'aient pas servi à des usages politiques, mais enfin, on ne peut pas avoir une lecture mécanique comme ça du rapport entre histoire littéraire, histoire des œuvres, et puis histoire en profondeur des sociétés, Antoine Lilti.
Oui, absolument. Il y a deux questions un peu différentes. D'une part, je ne crois pas que à une causalité politique directe des idées. C'est-à-dire, je pense que les idées sont importantes. Je pense qu'elles ont surtout permis aux révolutionnaires de comprendre ce qu'ils faisaient, de donner un sens à leur action. Je ne pense pas que les idées des Lumières aient causé et provoqué la Révolution. Mais la Révolution a toute une série de causes. Hein. Les causes intellectuelles en font partie, mais il y a des causes culturelles, économiques, sociales, politiques tout à fait importantes. Et par ailleurs, le point peut-être le plus important, c'est que le projet politique des Lumières n'est pas un projet révolutionnaire. Il n'est pas un projet de... Et au contraire, il y a une grande méfiance vis-à-vis de la Révolution. Pourquoi ? Parce que le projet des Lumières est un projet de transformation dans une temporalité longue, puisqu'elle est un projet, au fond, d'éducation. Elle est un projet où il s'agit, avec toutes les problèmes que ça pose, d'éclairer, hein, d'éclairer les hommes. Chez la plupart, presque tous les penseurs des Lumières, ce projet consistant à éclairer, à éduquer les hommes, implique une stabilité en réalité politique, institutionnelle et sociale, parce que il y a toujours cette inquiétude, cette angoisse qu'un bouleversement trop rapide soit plutôt une chance pour ce que Condorcet appelle les charlatans, c'est-à-dire tous ceux qui vont offrir au peuple des solutions faciles au détriment, au contraire, d'un véritable esprit critique.
Alors au fond, ce à quoi on assiste, c'est aussi à une forme de chronique par ces auteurs des Lumières, des transformations qui sont en train de se produire, dont ils sont les contemporains. Donc on n'est pas dans une lecture où eux-mêmes vont avoir des idées abstraites, des théories qui vont être à l'origine des transformations. C'est juste qu'ils ont le sentiment de vivre une époque dans laquelle se passent beaucoup de choses importantes qui ont trait aux politiques, à l'économie, à la religion, à la culture. Et ils vont s'efforcer de penser ça. Ils sont inquiets d'ailleurs, d'où peut-être ce... Oui. Conservatisme dont vous parlez.
Oui, ils sont intrigués, ils sont inquiets. Il faut bien voir que le XVIIIe siècle, hein, c'est un grand siècle de transformation à tout point de vue. C'est-à-dire que sur le plan sociopolitique, c'est quand même le moment où la société d'ordre hiérarchisée avec la noblesse, le clergé, le tiers-état est en train de craquer complètement. Et donc la question sur laquelle il faut s'interroger à ce moment-là, c'est celle des critères de la valeur sociale, qui sont entièrement remis en cause. C'est le développement, par exemple, d'un nouvel espace public, de la presse, des médias, la culture de la célébrité que j'avais étudié dans un travail précédent. Mais ce sont aussi des transformations économiques absolument considérables, avec le développement du commerce, et notamment du commerce mondial. C'est évidemment parler l'importance du moment colonial, de la traite, de l'esclavage, qui est une question absolument considérable. Et la plupart des écrivains, en réalité, des Lumières, des philosophes des Lumières, hésitent, doutent, font des propositions, changent de position. Donc c'est aussi cette hésitation et cette inquiétude par rapport au monde dans lequel ils vivent, aux transformations de la modernité dont ils sont les témoins, qu'il faut essayer de restituer.
Alors de la mondialisation et puis aussi des critiques postcoloniales des Lumières, on va reparler, Antoine Lilti, mais je voulais revenir sur le point précédent que vous évoquiez, à savoir les transformations de l'espace public, par exemple. Parce que, en fait, ce qui est frappant, c'est que s'il y a une actualité des Lumières aujourd'hui, elle se trouve peut-être davantage là que dans les figures caricaturales qu'on peut brandir. C'est-à-dire qu'au fond, il y a des points communs entre ce que vivent ces intellectuels à l'époque et ce que nous pouvons vivre aujourd'hui du fait de la mutation numérique qui vient chambouler un peu les règles de la diffusion, de l'information, de la transmission des connaissances. Et moi, j'ai trouvé dans votre livre beaucoup d'idées, beaucoup de réflexions qui sont autant d'outils, au fond, pour penser ce qui est en train de nous arriver aujourd'hui dans notre espace public.
En fait, une grande partie des transformations, évidemment, ils connaissent pas Internet, hein, je peux pas pousser l'anachronisme tout à fait aussi loin que je le souhaiterais, mais par exemple, c'est la transformation des journaux, hein, le développement de la presse et de l'imprimé plus généralement, qui transforme complètement l'espace public et donc les conditions même de la communication et les conditions de l'écriture philosophique ou politique. Ça, c'est quand même la grande spécificité des écrivains des Lumières, c'est qu'ils n'écrivent plus seulement pour des pairs, pour des érudits ou pour des mécènes, ils écrivent pour un public large qu'ils essayent d'éclairer.
C'est la grande différence avec le siècle précédent où des choses commencent à émerger, bien sûr, mais la diffusion devient beaucoup plus large.
Elle devient plus large et elle devient un objectif. Hein. Elle devient un objectif puisqu'il s'agit d'essayer d'éclairer le public.
Ça, c'est la grande cause commune.
Oui. Finalement, voilà, s'ils ont un point commun, c'est qu'ils essayent d'éclairer un public. Mais ce public, il est à la fois un espoir, une cible, parce que c'est, il faut l'éclairer, et en même temps, il est potentiellement une menace, parce que les philosophes des Lumières sont, les intellectuels des Lumières sont pris dans une tension entre une vision universaliste de la raison, tout individu est capable de raisonner, est capable de s'orienter dans la pensée, comme disait Kant, et en même temps, il y a une inquiétude par rapport à la masse, par rapport à la multitude, c'est-à-dire le constat au fond que le savoir est très irrégulièrement distribué. Et donc cette tension entre un désir d'émanciper par le savoir le plus grand nombre et le constat que cette multitude, cette masse, au fond, se désintéresse de ces débats et se passionne beaucoup plus pour des comédiens du boulevard, la vie privée des célébrités, etc.
Jusqu'à y compris celle des philosophes, puisque ça, c'était votre travail précédent sur l'invention des people, au fond, avec Voltaire.
Oui, Voltaire, il y a un très beau texte de Louis-Sébastien Mercier qui dit, bon, tout le monde fête Voltaire, mais on fête Voltaire non pas comme un philosophe, on le fait au fond comme une célébrité, et finalement la célébrité est le plus grand danger qui puisse menacer un philosophe, parce qu'à partir du moment où il devient célèbre, on s'intéresse plus tellement à ce qu'il a à dire, on s'intéresse à sa vie, on s'intéresse aux scandales qui l'entourent, etc. Et ça, je crois que tous les intellectuels qui depuis et jusqu'à aujourd'hui arrivent à un certain degré de célébrité sont confrontés à ça. Est-ce que leur célébrité, leur notoriété est un atout pour diffuser et faire connaître leurs idées, ou est-ce qu'elles se retournent contre eux comme une sorte de piège, hein, où finalement leur célébrité fait écran à leur discours.
Quand Rousseau devient Jean-Jacques, en quelque sorte, puisqu'il était appelé ainsi. Alors, donc ça, c'est très très intéressant, au fond, de voir que des problèmes dont on a parfois un peu rapidement l'impression qu'ils sont radicalement nouveaux aujourd'hui, trouvent des racines très très anciennes dans ce 18e siècle. Et problèmes qui sont reformulés à différents moments, en fait, parce qu'il y a évidemment ce que sont les Lumières au 19e siècle, avec la fondation de la République en France, par exemple, ce que les Lumières vont être tout au long du 20e siècle. Donc, au fond, cette histoire, elle est très complexe à écrire, puisque c'est pas seulement l'histoire d'une période historique particulière, Antoine Lilti.
Oui, alors par exemple, j'ai essayé de le montrer. Alors, je peux pas faire l'histoire entière des reprises et des retours des Lumières à différents depuis la fin du XVIIIe siècle.
Ce serait sans fin.
Enfin, c'est un livre que j'aimerais et que j'espère écrire un jour, mais là, c'est pas ce livre-là. Mais j'ai néanmoins pris quelques moments, quelques exemples. Et par exemple, il y en a un qui me paraît très très emblématique. C'est le cas de Michel Foucault, sur lequel je termine le livre. Michel Foucault, dans les années 60-70, il est le plus loin qu'on puisse imaginer des Lumières. Hein, il est même perçu comme un critique de l'héritage des Lumières, de la rationalité des Lumières, etc. Et puis, à toute fin de sa vie, au début des années 1980, dans des cours, puis dans des textes, qui vont d'ailleurs être surtout connus après sa mort, il écrit plusieurs textes sur les Lumières, où il se revendique des Lumières et de l'héritage des Lumières. Alors j'ai essayé de comprendre comment c'était possible. Il y a toute une série de raisons, qui sont des raisons à la fois conjoncturelles, qui sont des raisons philosophiques, mais il y en a une qui me paraît particulièrement importante, c'est justement confronter à la difficulté et aux contradictions de sa parole d'intellectuel et de philosophe dans l'espace public, et de ce que c'est que de porter une parole de vérité dans l'espace public, Foucault se retrouve obligatoirement confronté à la figure de l'intellectuel critique qu'il avait essayé d'échapper. Alors il va essayer de la reformuler.
Et donc il va donner des entretiens anonymes.
Exactement, pour échapper justement à sa célébrité. Il y a un fameux texte où qui signe le philosophe masqué, hein, où il dit « je vais ». Voilà. Donc il essaye d'échapper à ça, mais surtout il va essayer de reformuler les Lumières en y introduisant d'autres éléments, et notamment une forme d'esthétisme venu de la modernité littéraire et de Baudelaire. Donc c'est un geste très improbable en réalité sur le papier, qui a très bien marché, puisque ce texte de Foucault, Qu'est-ce que les Lumières, a été ensuite tout le temps et depuis tout le temps cité, notamment parce qu'il y a des formules très belles justement sur l'actualité du présent, sur ce que c'est que d'avoir un rapport critique à soi-même, etc. Mais c'est un geste très improbable théoriquement et qui néanmoins a marché parce qu'il répondait à un besoin de réactualiser, reformuler l'héritage des Lumières en tant que problème de la parole intellectuelle dans l'espace public.
Alors, vous ouvrez votre livre, Antoine Lilti, par les critiques postcoloniales des Lumières. Parce que, vous le rappeliez, les Lumières, c'est un moment où une mondialisation s'opère, où une colonisation très très importante de nombreux territoires s'opère aussi par des pays européens, dans lesquels ces auteurs habitent et écrivent, avec cette prétention, et c'est ce qui caractérise aussi ces Lumières, à l'universalité. Donc on imagine bien que déjà, les caricatures des Lumières dont nous parlions tout à l'heure, celles qu'on apprend à l'école en France, puissent finalement ne pas correspondre à une réalité heurtée. Mais alors, qu'en est-il de ces caricatures quand elles sont exportées sur des continents qui sont encore plus éloignés, je dirais, de ça? D'où peut-être une forme de critique très féroce des Lumières, dans lesquelles vous avez puisé des arguments extrêmement intéressants, et d'autres avec lesquels vous êtes en désaccord davantage. Vous tentez de faire la part des choses, en quelque sorte, Antoine Lilti.
Oui, c'est exactement ça. Alors, c'est un exercice difficile qui risque de mécontenter les deux côtés, hein, les deux bords de la controverse, hein, puisque au fond, à la fois, je pense qu'un certain nombre des critiques, disons un versant que j'appellerais volontiers radical et extrêmement militant de la critique postcoloniale, au fond, par rapport aux Lumières, a construit une espèce d'homme de paille, de caricature, qui vise moins d'ailleurs les Lumières, enfin ce que moi j'appelle les Lumières, que l'occidentalisme du 19e siècle colonial. Bon. Et donc j'essaye de montrer que de ce point de vue-là, elle a un peu tendance à rater sa cible, qu'on peut pas en tout cas accepter en bloc la critique postcoloniale, ne serait-ce que parce que justement elle ne voit pas toujours dans ce versant-là la pluralité des Lumières. Mais en revanche, je pense que le geste qui consisterait à l'écarter justement sur cet argument est un geste dont il faut absolument se méfier. Et je pense que la critique postcoloniale, bon, en fait, je montre que c'est d'ailleurs, il n'y a pas une critique postcoloniale, il y a une grande diversité en fait d'approches, de thèses, de méthodes, d'auteurs. Au fond, elle est extrêmement utile pour ceux qui veulent réfléchir à l'héritage des Lumières parce qu'elle permet justement, elle nous donne des outils pour penser les contradictions auxquelles les intellectuels des Lumières ont été confrontés dès lors qu'ils ont dû penser l'articulation entre un universalisme théorique et la réalité d'auteurs européens dans un moment dominé par le colonialisme, la traite, l'esclavage, l'exploitation coloniale dans les colonies. Et pour prendre juste un exemple, j'ouvre le livre avec le cas de Voltaire. Voltaire qui est souvent pris justement comme une figure de l'aveuglement des Lumières par rapport à la question coloniale ou à l'esclavage. Ce qui est vrai en partie, ce qui est vrai surtout au début de sa carrière, mais peut-être que le plus intéressant, c'est pas ça. C'est très important de le dire, parce que longtemps on ne l'a pas dit, donc c'est très important de le dire, mais c'est peut-être encore plus important et plus intéressant de voir que...
Son évolution.
Voilà, de voir que lui-même, à un moment, est un très bon représentant tout d'un coup de cette crise de la bonne conscience européenne, hein, dont il était finalement le parangon. Et il va progressivement, et notamment en écrivant l'histoire, c'est ça qui est intéressant, en écrivant son essai d'histoire universelle, confronté à la question de la colonisation, et va quand même dénoncer, alors des termes qu'on peut toujours trouver trop modérés, mais quand même de manière assez forte, la colonisation, et dit... jamais ce pauvre globe n'a vécu de pire catastrophe, et l'esclavage, et surtout la responsabilité des Européens dans l'esclavage. Donc cette tension, ça n'en fait pas un grand militant anticolonialisme, enfin il faut se garder de projeter nos propres morales, mais néanmoins ce qui est intéressant, c'est la façon dont il va se débattre ensuite dans sa façon d'écrire avec cette contradiction.
Alors l'universalité et la durabilité des Lumières, il en sera question dans la deuxième partie de l'émission, en nous projetant dans l'avenir avec Leonora Miano, et dans la fiction aussi, c'est important, parce que c'était une part aussi importante des Lumières qu'on pourra évoquer. Mais je voulais profiter de votre présence ici aujourd'hui, Antoine Lilti, pour évoquer un festival de sciences sociales dont vous avez dirigé l'équipe qui l'a mis en place, festival de l'École des hautes études en sciences sociales, qui va se tenir pour la première fois à Marseille à la fin de la semaine prochaine, entre le mercredi et le dimanche, un festival qui s'appelle Allez Savoir.
Oui, c'est un festival, au fond, qui vise, là encore, à ouvrir les savoirs des sciences sociales sur la société. Donc, il y aura énormément de choses diverses. Il y aura des tables rondes, il y aura des rencontres, il y aura des promenades, il y aura des projections de films, il y aura des spectacles autour d'un thème qui s'appelle, autour du thème qui est celui de la nature. Avec un titre un peu provocateur, hein, pour en finir avec la nature. Mais évidemment, aujourd'hui, on veut préserver la nature. Et en même temps, et on a raison de vouloir préserver la nature, et en même temps, les sciences sociales sont quand même beaucoup construites sur la déconstruction de la nature, du naturalisme, hein, l'idée que tout est socialement construit. Des fois, c'est la caricature qu'on fait des sciences sociales. Et donc voilà, on va essayer de réfléchir à ça. Qu'est-ce que les sciences sociales permettent aujourd'hui, comment les sciences sociales permettent d'aborder la question dans plein de domaines divers de la question de la nature.
Et en partenariat donc avec France Culture, ce festival qui est au fond tout à fait dans l'esprit des Lumières, au sens qu'il est soucieux de toucher un public plus large que celui simplement des professionnels des sciences sociales. Il ne s'agit pas d'un colloque, mmh. il s'agit d'aller bien
pas,
au-delà.
Oui, pas du tout. Il s'agit vraiment de s'adresser au public le plus large, et je crois que c'est le rôle des sciences sociales. Ce n'est pas uniquement de produire des savoirs professionnels pour spécialistes, c'est aussi de donner à un public très large des outils pour se repérer dans le monde contemporain.
Aller savoir en finir avec la nature, avec un point d'interrogation. Donc, vous trouverez la référence, le lien vers le programme sur la page de la suite dans les idées. On retrouve Léonora Miano pour la deuxième partie de l'émission à propos des Lumières. Mais d'abord, un extrait du nouvel album enregistré avec un orchestre et beaucoup de cordes de Chrissy Hynde, une reprise d'un morceau célèbre des Beach Boys.
La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau.
Suite dans les idées à la vitesse des lumières, nous voici propulsés en 2124, c'est
exactement.
Ça ? Exactement.
Exactement.
Et nous voici propulsés à Catiopa, Léonora Miano. Catiopa, c'est le nom d'un continent sur lequel vous situez ce roman Rouge Impératrice. On peut lire aussi comme un conte, d'où l'écho à certains textes du XVIIIe siècle dont nous parlions dans la première partie avec Antoine Hilty, la manière dont des auteurs des Lumières se sont servis de la forme du conte pour explorer des mondes. Alors vous, c'est le futur que vous avez choisi d'explorer.
Oui, absolument, pour m'amuser un peu, ne pas m'ennuyer, et puis
pour inventer une histoire où enfin l'Afrique peut incarner à la fois l'amour et la puissance, ce qui est rare et donc très transgressif.
L'Afrique qui s'appelle pas l'Afrique, donc qui s'appelle Katiopa, ainsi qu'un certain nombre de noms qui ont changé de substantif, vous
non,
rendez l'entrée.
Ils changent pas, hein. Ils changent pas vraiment. C'est
non, mais pour
les vrais noms.
pour le lecteur français qui lit livre écrit en français,
exact.
Je veux dire par là que vous introduisez des mots qui sont nouveaux, que nous ne connaissons pas, et je pense que vous avez fait exprès pour au fond nous faire connaître l'expérience du franchissement d'un seuil. Quand on entre dans votre livre, il y a un petit effort à faire qui n'est pas du tout désagréable, et surtout qu'une fois qu'il est fait, on est heureux de l'avoir fait, parce que ça fait partie du voyage en quelque sorte dans le temps, et puis aussi probablement géographique, le Nora Miano. Qu'est-ce qui vous a conduit à introduire ces quelques mots? Il n'y en a pas tant que ça non plus.
Non, il y en a quelques-uns, mais comme il s'agissait de créer de toute pièce ce grand état africain du futur qui mêlerait nos différentes nations actuelles et qui se serait aussi engagé dans la voie d'une reconfiguration identitaire qui veut brasser entre elles les cultures subsahariennes, il fallait marquer cette volonté identitaire de l'État par un choix esthétique particulier dans le roman. Donc j'ai choisi d'introduire dans le lexique français quelques mots africains, principalement pour les vêtements, vraiment principalement pour ça.
Pour des fonctions politiques,
pour des fonctions politiques aussi. Alors pour les fonctions politiques, c'était parce que, prenons le chef de l'État qui est appelé dans le roman le mot Kanzi. Ben, je voulais pas que ce soit un président de la République, mais je voulais pas non plus que ce soit un empereur.
Ou un roi.
Ou un roi. Donc finalement, c'était plus simple de le baptiser d'un mot qui existe dans les langues du Congo et qui est ni président, ni vraiment roi, ni empereur, mais qui est quand même celui qui a en charge la nation et le peuple.
Alors, il y a beaucoup d'ironie dans le choix que vous avez fait avec ce roman. Au fond, c'est vrai qu'on est à une époque où on voit l'Europe peiner à construire cette union en l'asseyant en particulier sur les Lumières. On voit l'Europe chercher avant les Lumières des racines bien plus anciennes, qu'elles soient chrétiennes ou autres, et alors même qu'elle est le produit à certains égards des Lumières. Mais là, vous, soudainement, on découvre une Afrique qui n'est pas l'Union africaine, qui est quelque chose de beaucoup plus réussi et ambitieux.
Certainement pas l'Union africaine.
qui est une Afrique unie, mais pas l'Union africaine, et qui réussit là où l'Europe a échoué, et qui d'ailleurs, Afrique, qui reçoit des migrants européens venus se réfugier.
Oui, exact. Mais qui réussit là où l'Europe a échoué, elle ne réussit pas sans mal. Hein. On sait que partout, le fédéralisme auquel je suis favorable, moi, dans tous les espaces où je me trouve, que ce soit en Afrique ou en Europe, le fédéralisme impose des abandons de souveraineté qu'il est difficile de consentir. Donc on voit bien dans le roman que ce grand État se crée par la force, et qu'il se crée par la force après avoir été durablement attendu, préparé par une sorte de société secrète qui s'appelle l'Alliance. Bon, ça c'est très romanesque d'avoir des sociétés secrètes qui s'appellent l'Alliance. Mais enfin, c'est tout ça pour dire que ça ne se fait pas non plus facilement et que quelque part il faut l'imposer. Simplement, lorsque nous rencontrons cette nouvelle formation politique, elle est emmenée par des gens qui quand même inspire plutôt confiance, et pour l'instant une grande partie de la population leur laisse une chance de mener à bien leur projet, leur entreprise.
Antoine Lilti, vous avez lu le roman de Leonora Miano. J'ai insisté sur des échos avec des formes littéraires qui sont antérieures, qui sont celles du comte. C'est vrai que c'est très une hypothèse passionnante qu'elle fait pour penser aujourd'hui l'Afrique. C'est un roman philosophique à bien des égards.
Oui, oui, à bien des égards, ça reprend. Il y a ce qu'il y a de, avec sans doute une, enfin de manière évidente, une puissance romanesque et narrative qui là hérite plutôt de traditions plus récentes, hein, du roman par rapport au conte philosophique du XVIIIe siècle. Mais ce qu'il y a de commun, je pense, c'est d'utiliser la fiction pour travailler une hypothèse de manière non idéologique. Voilà, je pense que c'est pour ça que le conte, par exemple, ou le roman philosophique ou l'utopie, parce qu'il y a le roman utopique, comme chez Louis-Sébastien Mercier, par exemple, un des grands best-sellers du XVIIIe siècle. Il y a un peu de ça aussi, peut-être, en filigrane. Et le roman philosophique, le conte, l'utopie, servent, en fait, justement, à travailler des tensions, des difficultés, hein, des hypothèses, mais en montrant, en laissant, en fait, le lecteur aussi faire son choix herméneutique, d'interprétation par rapport à différents possibles, à différents personnages notamment.
Oui, les personnages incarnent des manières de penser, hein, le présent et l'avenir tout à fait différentes, pas toujours opposées, mais quelquefois opposées. Et j'aime bien faire ça, que le lecteur décide lui-même, choisisse, mène sa réflexion. C'est un roman qui pense beaucoup. Qui pense beaucoup, eh bien parce que je l'ai souhaité tel. Je voulais proposer un voyage, une sorte de rêve aussi, mais qui soit en même temps un outil pour penser notre avenir, pour interroger les possibles qui s'offrent à nous tous, à la fois nos situations actuelles, mais ce que nous allons vouloir faire du monde demain et la manière dont nous allons choisir de l'habiter ensemble, parce que je pense que nous allons de toute façon continuer à l'habiter ensemble, qu'on va pas divorcer les uns des autres, quelle que soit la manière dont nous nous sommes rencontrés. Et donc voilà, très simplement, hein, ce que je pourrais dire de mon objectif, si vous voulez, un terme un peu ambitieux pour parler de mon travail ici.
Et c'est-à-dire que vous héritez, puisque on parlait d'héritage des Lumières, vous héritez de beaucoup de formes, de questions pour les projeter dans cet avenir et effectivement nous faire penser, nous faire forger des outils de connaissance de ce qui se profile à l'horizon, de ce qui menace. Alors je voulais pas réduire le roman à sa dimension 18e conte philosophique, même si elle est présente.
Elle est présente et assumée. Moi, j'aime bien j'aime beaucoup l'idée du conte, j'aime beaucoup l'idée même de la fable pour réfléchir à l'avenir. C'est tout à fait ça ici, en tout cas en grande partie. C'est vrai que peut-être je mêle un peu les formes et que à la fin ça donne un texte légèrement hybride, mais après tout, quand on est une Africaine subsaharienne parlant le français, écrivant en français, et néanmoins dépositaire de mémoires africaines aussi, d'esthétiques africaines, peut-être qu'on ne peut écrire que des romans un peu hybrides, et c'est pas si mal.
Et encore, vous avez oublié la dimension afro-américaine.
Oui, parce qui est que, très importante chez moi.
C'est pas un hasard si le livre s'ouvre avec une citation de Toni Morrison.
Oui, c'est même ma principale culture littéraire. J'ai une culture littéraire française très succincte. Voilà, parce que j'ai grandi au Cameroun à une époque où on nous enseignait en littérature beaucoup, beaucoup d'auteurs africains, caribéens, africains-américains et quelques classiques français. Donc moi, j'ai lu Richard Wright au lycée, mais aussi Wole Soyinka, Sartre. Bon, donc voilà, et quand j'arrive en France pour poursuivre mes études, ben, j'atterris dans un UFR d'études anglophones et je lis Faulkner et je lis Shakespeare et je connais peu finalement les auteurs français. Alors, faut pas le dire quand on écrit en français, mais peut-être que ça rassure les gens sur le fait que pour être un auteur de langue française acceptable, on n'a pas besoin d'avoir une grande culture littéraire française. Il faut d'abord parler le français, c'est tout.
ce type de parcours et de trajectoire qui est très représentatif au fond de, d'un autre moment de la mondialisation que celui du 18e, qui est une mondialisation culturelle autrement plus riche au fond probablement, permet de repenser cette question de l'universel autrement. Et c'est l'un des enjeux de cette critique postcoloniale dont nous parlions tout à l'heure des Lumières, Antoine Lilti.
Oui, je reprends dans le livre l'opposition entre universel de surplomb et universel latéral. Je reprends notamment à Souleymane Bachirdiane qui a insisté justement sur la traduction, l'importance des langues et de la traduction et de la pluralité linguistique comme visée vers l'universel. Donc je crois qu'on est tout à fait là. Et une chose que je trouve formidable dans le livre aussi, c'est, puisqu'on est sur la question de l'héritage, de la mémoire, de la dette, on voit bien qu'il y a il y a des personnages qui ont des rapports très différents à ce que c'est que d'hériter du passé. Et il y a ceux qui, justement, font du passé, sont enfermés, en fait, comme dans une prison, dans un passé identitaire dont ils n'arrivent pas à sortir. Il y a une très belle formule.
Et notamment les immigrés européens.
Exactement.
Qui sont installés.
Faut pas dire européens, faut dire français.
Français, voilà. Pardon.
Parce que c'est particulièrement les Français.
Oui. Voilà. Et puis il y a ceux qui utilisent, en revanche, leur passé et leur héritage pour construire un avenir, alors difficile, mais ouvert et à partir justement de leur langue, de leur culture, de leur religion, de leurs racines. Et ça, c'est très beau, je trouve.
Oui, j'avais lu Foulassi, pas français.
Foulassi, c'est français au sud du Cameroun parce que c'est dit dans une langue dans laquelle le son fre n'existe pas. Et donc, ce fre est devenu Foula pour arriver à dire français. Et donc, ça donne Foulassi.
Rouge impératrice, c'est le titre du roman de Leonora Miano qui paraît aux éditions Grasset. L'héritage des Lumières, c'est le titre du livre d'Antoine Lilti qui paraît aux éditions du Seuil. On trouve les références bibliographiques des deux ouvrages.
Et qui est passionnant, hein. Je sais, j'ai pas fini de le lire, mais je recommande vraiment. On apprend beaucoup de choses et c'est très fluide comme lecture.
Contrairement à
ce que pense l'auteur.
Merci.
Nous sommes deux à le dire. Référence donc sur la page de la suite dans les idées sur le site de France Culture, une page où vous pouvez également réécouter l'émission et vous abonner au podcast. C'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché de production Marie Dalquier, à la technique aujourd'hui Claire Levasseur, à la réalisation Marie Placé. Et c'est Christine Bernard que vous retrouvez dans quelques instants sur l'antenne de France Culture pour une histoire particulière.